Bonjour Lang Lang.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans ces matins du samedi de France Culture. Vous êtes à Pékin, en Chine. Vos propos seront traduits de l'anglais par Michel Zlotowski, que je salue. Nous venons d'entendre l'aria des variations Goldberg de Bach, que vous venez de sortir dans un enregistrement chez Deutsche Grammophon. Lang Lang, vous aviez déjà enregistré Mozart, Chopin, Beethoven, Liszt, Tchaïkovski, Mendelssohn, mais il était temps pour vous de vous attaquer à ce sommet musical.
Yes, I mean, obviously Bach, it's a very different type of musician.
À l'évidence, Bach est un musicien totalement différent. Il appartient à l'époque baroque. Et spécialement les variations Goldberg. C'est un des principaux défis de la littérature pianistique. C'était un bon processus d'approche de faire Mozart, Beethoven, Chopin, et ensuite de revenir à Bach. Je crois que c'est le bon équilibre d'une certaine manière, parce qu'il faut aller en arrière, un centenaire ou deux, connaître les instruments de la période, connaître l'orgue baroque, apprendre la façon française et italienne que Bach a utilisée pour ses ornementations, pour comprendre sa musique. Et aussi, bien plus important, d'améliorer mon style avant d'aller vers Bach. Donc je pense que c'était le bon processus.
En même temps, ça fait longtemps que vous travaillez dessus, Lang Lang. Je crois que c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine, puisque vous les avez joués une première fois à 17 ans, devant le chef d'orchestre et pianiste Christoph Eschenbach, que vous avez voulu les enregistrer en 2012, mais j'ai ouï dire que le grand chef Nicolas Harnoncourt vous aurait dit que vous n'étiez pas encore prêt. Qu'est-ce qui vous a décidé à les enregistrer maintenant? Comment se sent-on prêt à le faire?
Bah oui, je viens de le faire, donc il vaut mieux que je sois prêt à le faire après tellement d'années de préparation. J'ai dû apprendre le baroque. C'était le principal défi de ce projet. Et aussi de comprendre ce qu'est la perle noire de la variation 25, avec tous ces mouvements dépressifs qui descendent dans les canons, dans les profondeurs de l'âme. Bien comprendre les différents commentaires pour bien comprendre ce que signifie chaque variation du côté des caractères et comment faire la différence Il faut véritablement avoir une vision globale de toutes ces variations. de façon ascendante, si vous voulez. On ne peut pas sauter sur l'une puis sur l'autre. Il faut aller en progression. Il faut avoir véritablement la vision de l'ensemble vers la dernière variation. Ce niveau de détail doit être réfléchi profondément, réfléchi pour qu'il soit mis dans la bonne position, plus que simplement jouer cette pièce en concert. Quand j'avais 17 ans, je l'ai joué de façon extrêmement romantique, parce qu'à cette période de ma carrière, je jouais beaucoup de Chopin. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'apprenne la manière baroque. Mais bon, quand j'avais 17 ans, j'aimais déjà ce morceau. J'y mettais tout mon cœur, mais visiblement, je n'avais pas la connaissance nécessaire de la musique baroque. Et de m'adapter aux instruments de l'époque, et aussi à l'orgue, l'orgue baroque, vers le chaos romantique. Donc, il a fallu que je fasse cet apprentissage pianistique à l'époque. Mais maintenant, je pense que je suis prêt pour les ornementations de la musique baroque, le style, et puis les aspects codés de l'époque baroque. Et donc, je suis dans une situation où je peux le faire maintenant.
Et puis, entre les deux, Lang Lang, 20 ans ont passé, donc une carrière de pianiste, une maturité sûrement. Dites donc, c'est un petit peu comme Glenn Gould, autre monstre sacré, auquel on doit deux enregistrements. Le premier en 1955, il était jeune à l'époque, il avait 23 ans, et le deuxième en 1981. Est-ce que Glenn Gould vous a inhibé avant de pouvoir enregistrer votre version, Lang Lang?
Yeah, especially loving the late one. I really love the 1981 version. I think that's a really legendary.
Oui, je préfère en fait la deuxième version, celle de 81. Une version où il met tellement d'idées individuelles. Et lui comprenait absolument chaque note qu'il jouait et la façon de l'interpréter. C'est la raison pour laquelle, finalement, il avait atteint une technique absolue de couleurs, de recréation artistique. Certaines parties sont extrêmement lentes, mais tellement puissantes. Et cet enregistrement signifie beaucoup pour nous. Il y a beaucoup d'amour dans cette musique, mais il y a aussi beaucoup de luttes, beaucoup d'émotions, passives envers cette interprétation. Et puis aussi parfois les dissonances qu'il faisait entendre. Mais c'est extrêmement puissant. Oui, je préfère celle de 81. Je n'aime pas les variations Goldberg jouées de façon trop douce. Ce n'est pas le son idéal pour ça. Ce morceau doit être un peu plus complexe que ça.
Alors Glenn Gould et cet enregistrement 1981, c'est effectivement Lang Lang, la référence absolue pour de nombreux mélomanes. Il se trouve que la première variation sert de générique à une célèbre émission de France Culture depuis une vingtaine d'années. On va écouter cette première variation, les auditeurs de réplique vont tout de suite tiquer. Non, il n'est pas encore 9h, chers auditeurs, chères auditrices, il est bien un peu plus de 7h. Nous écoutons d'abord Glenn Gould. Alors voilà pour cette interprétation par Glenn Gould. On va enchaîner, Lang Lang, avec votre jeu, votre interprétation de cette première variation. Voilà, la version par vous, Lang Lang. Alors évidemment, ce qui frappe tout de suite les oreilles, c'est la rapidité avec laquelle vous interprétez par rapport à Glenn Gould, cette première variation. C'est bien plus enlevé.
Yeah, of course. I mean,
bien sûr, chaque variation peut être séparée de l'autre. C'est indépendant, ça semble indépendant.
Yeah, so for me, this,
et pour moi,
speed has a more, you know, I can do much more
ce tempo, je peux faire plus d'ornementation baroque. Si c'est trop lent, ça sera très difficile d'ajouter ces variations baroques, ces ornementations baroques. C'est pour cela que je veux jouer un peu plus vite.
Comment trouver la bonne distance avec Bach? C'est-à-dire à la fois respecter la dimension sacrée de l'œuvre et la dimension humaine, émotionnelle. Ces œuvres, il faut le rappeler, ont été écrites dans les années 1740, donc à la fin de la vie de Jean-Sébastien Bach. Est-ce que vous avez trouvé cette distance, ce bon équilibre, disons, entre dimension sacrée et dimension humaine?
Yes, it's a real masterwork because you have
c'est un chef-d'œuvre parce que il faut avoir vécu beaucoup d'expériences dans sa vie. Il faut être passé par différentes étapes de la vie pour pouvoir composer un morceau tel que celui-ci. Impossible qu'un adolescent puisse composer cela. Il faut avoir vécu pour pouvoir refléter dans votre mémoire ces émotions, ce lyrisme aussi. Donc, ce morceau était tellement sacré parce que il était au sommet de son art. Avec cinq notes, il pouvait faire une cinquantaine de variations sur ces cinq notes. Il y avait cette puissance créatrice. Il y a beaucoup de symétrie, de pouvoir dans ce morceau, plus les véritables émotions qui les sous-tendent. Si simplement vous avez des concepts de la symétrie, vous n'avez pas un grand morceau, une grande pièce de musique, parce qu'il n'y a pas de cœur là-dedans. Et c'est la raison pour laquelle les variations Goldberg sont tellement uniques.
On parle d'ailleurs souvent d'abstraction quand on parle des variations Goldberg. Alors à quoi pense-t-on, Lang Lang, quand on joue ces variations?
Vous avez absolument raison, c'est ce côté abstrait, principalement dans les canons, lorsqu'il y a un développement des canons de la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et qu'on revient à la première. C'est véritablement des formes abstraites, des mélodies, les notes, les échanges entre les voix médianes. C'est comme s'il avait un second cerveau pour faire l'autre partie abstraite de l'œuvre. Vous avez parfaitement raison. Il faut absolument absorber cette abstraction et la beauté vient de ces formes abstraites.
Alors il y a une particularité dans cet enregistrement que vous avez fait pour Deutsche Grammophon Lang Lang. Il faut le dire, d'après Deutsche Grammophon, c'est le premier album au monde constitué d'un enregistrement en studio et d'un concert donné en l'occurrence à l'église Saint-Thomas de Leipzig, la ville de résidence de Bach pendant plus de 30 ans et aussi son lieu de sépulture. C'est-à-dire un enregistrement live et un enregistrement studio. Alors quand on sait que les variations Goldberg, c'était aussi la seule œuvre de répertoire où le pianiste est seul au piano pendant une heure et demie sans pause, on a envie de vous demander la différence de son que peut rendre un enregistrement studio d'un côté, un enregistrement live de l'autre.
Yes. In the church, I
oui.
only had one go, you know,
by chance. À l'église, je n'avais qu'une seule chance. Mais j'ai eu un petit moment d'échauffement, si vous voulez.
But that night,
et puis, cette nuit-là, j'étais tellement inspiré par le son de l'orgue baroque que j'avais joué dans l'après-midi. mais j'étais aussi inspiré par le lieu, par l'église elle-même, tellement pleine de spiritualité, spécialement lorsque vous avez l'autel près du piano, qui ajoutait ces sentiments mystérieux, mais de façon très positive. Et tout le public était là ce soir-là. C'était des experts de Jean-Sébastien Bach. Ils étaient tellement pleins de la musique de Bach. J'ai eu, si vous voulez, des moments spontanés pour cette interprétation. Il y a une respiration merveilleuse entre chaque variation. Et lorsque vous avez une performance sans être dérangé, eh bien, ça crée quelque chose d'extrêmement émotionnel. Et on en passe après au studio, avec un processus d'approfondissement. Ce sont 5 journées de travail incessant, à écouter, jouer, écouter à nouveau, manger un petit quelque chose, dormir un petit coup, et puis revenir aux enregistrements, parler au producteur, et tenter de jouer très légèrement chaque variation, comme la 13, avec un son un peu trémolo, la variation 16, c'est l'ouverture française. Tenter de jouer plus dans le style de l'orgue. Et certaines variations, je tentais d'imiter la trompette baroque. Et pour d'autres, c'était les pizzicati baroques. Au studio, vous pouvez faire des tas d'essais en son. Je ne parle pas techniquement, mais de mon jeu pianistique, et tenter de trouver différents types de sons. C'est jouable. Vous savez, c'est aussi, on peut bien entendre les différences dans l'enregistrement. Et on a le temps en studio de le faire. Donc, en studio, on peut aller dans n'importe quelle direction souhaitée. Mais, parfois, il vaut mieux le faire en une prise. Et c'est comme ça. C'est ça, la vie. Mais il y a d'autres solutions.
Allez, Lang Lang, on va laisser passer les titres de l'actualité à 7h30 sur France Culture. On vous retrouve juste après. Le pianiste de renommée mondiale Lang Lang est avec nous ce matin. Grand honneur de recevoir Lang Lang dans ce studio, même s'il n'y est pas, puisque Lang Lang, vous êtes à Pékin. On vous avait quitté l'année dernière avec l'enregistrement de votre piano book, une compilation de quelques morceaux extrêmement fameux qu'on apprend quand on est enfant à jouer au piano et qu'on prend un immense plaisir à réécouter en votre compagnie. Vous revenez donc en cette rentrée avec 2 albums. Peut-être même 3, peut-on dire. Les variations Goldberg de Bach, enregistrées en studio et en live. Et puis un autre disque, plus léger, qui se présente comme une compilation de musique de film. Eh ben tiens, on va en écouter un extrait. Lang Lang, que vient-on d'entendre?
Oh, that was the theme of The Gladiator by Hans Zimmer.
C'est le thème du Gladiateur de Hans Zimmer. Non, ce n'est pas des variations Goldberg du tout, ça. C'est une version réarrangée.
C'est un disque qui vient tout juste de sortir en France, un disque d'un certain nombre d'enregistrements, effectivement, de musique, de films. Vous aimez jouer pour le cinéma, vous aimez le cinéma. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un dessin animé que vous aimez particulièrement, un dessin animé qui a même, dit-on, influencé votre gestuelle, parfois exubérante sur scène. On va en écouter un extrait.
Tom and Jerry, I think you were talking about.
Oui, je pense que vous parlez de Tom et Jerry.
The cartoons.
J'aime beaucoup les dessins animés, spécialement lorsque j'étais enfant. Mais après, j'ai été aussi tellement ému par la musique classique dans les dessins animés. Et c'est fascinant de voir les personnages ensemble avec la musique qui s'accorde parfaitement de façon fantastique.
Et je
visualise quasiment ces images quand je jouais, quand j'étais enfant. Parce que lorsqu'on joue du piano, il faut que la musique soit aussi vivante que possible. Et pour que la musique soit vivante à nouveau, il faut jouer les personnages. Et c'est pour ça que les dessins animés étaient d'une grande aide et une inspiration aussi lorsque j'étais enfant.
En l'occurrence, effectivement, il s'agit de The Cat Concerto sur la Rhapsodie hongroise numéro 2 de Liszt. C'est votre âme d'enfant qui nous intéresse, en effet, là, Lang Lang, puisque vous avez inspiré plus de 40 millions d'enfants à apprendre le piano. Vous avez développé de très nombreux programmes éducatifs en Chine qui rencontrent un véritable succès, comme une méthode de piano qui est un best-seller en Chine. C'est très important pour vous de transmettre la musique classique aux enfants?
Absolutely, because I do feel
oui,
that
absolument. Je sens que
lack of communication,
il y a un manque de communication entre la musique et les enfants, principalement en raison des problèmes financiers, parce que lorsqu'il y a des budgets qui sont éliminés, ben c'est la musique qui est éliminée tout d'abord. Donc là, je parle non pas seulement en tant que pianiste, mais en tant qu'individu. Je pense que créer une méthode véritablement intéressante pour enseigner les enfants, c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre sur la liste des premières priorités. Je veux rendre à la société l'art qui m'a inspiré moi.
On connaissait une génération de pianistes chinois très forts techniquement parlant. Est-ce que vous diriez qu'émerge, est-ce que vous constatez l'émergence d'une nouvelle génération de pianistes formés peut-être dans vos écoles, puisque vous avez aussi ouvert vos propres écoles de musique en Chine, Lang Lang, une nouvelle génération, disons, qui travaille plus la musicalité?
Pour moi, il ne s'agit pas simplement de musique. C'est le style authentique de l'apprentissage de la musique occidentale. Je crois que c'est une façon plus précise de dire les choses. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas tellement certain sur la manière de jouer de la musique occidentale, une question de style, une question de flair aussi. Lorsque vous marchez dans les rues de Paris, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas simplement d'une belle ville, mais aussi il y a l'air de Paris aussi. Il faut se placer au sein de cette société, au sein de leur façon de communiquer, de penser. Et pour le connaître, pour l'apprendre, c'est une culture étrangère. Il faut que vous créiez des amitiés pour apprendre la civilisation, l'histoire de la civilisation. Il faut aussi entrer dans d'autres domaines, comme la peinture, la poésie, les bâtiments. Il s'agit d'apprendre une nouvelle civilisation, une nouvelle culture. Et ça, ça se fera entendre quand vous jouerez cette musique. Là, le son sera plus musical. Et la technique est importante, certes, spécialement pour le piano. C'est très important. Mais si la technique ne peut pas servir la musique, à ce moment-là, la technique, c'est une perte de temps.
Lang Lang, est-ce que vous diriez que vous avez contribué par votre célébrité, par votre musique, à démocratiser la musique classique en Chine, voire peut-être justement à changer la façon de jouer? Si je prends juste le Piano Book qui est sorti en 2019, il est devenu l'album classique le plus vendu au monde. Il a atteint le sommet des classements dans de nombreux pays, 170 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Est-ce que ça permet de rendre la musique classique plus démocratique?
J'aime tellement la musique classique. J'aimerais voir beaucoup plus de nouveaux arrivants qui écouteraient cette musique. C'est pour ça que je tenterai de faire des projets intéressants pour pouvoir refermer l'écart entre notre public, nos nouveaux étudiants qui n'ont jamais eu l'expérience de la musique classique précédemment. Et je suis très heureux, et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir le faire et de réussir à me connecter à beaucoup d'amoureux de la musique. Et vraiment, je le chéris comme un grand trésor et je continuerai à faire ce que je fais.
Lang Lang, est-ce que vous pouvez donner des concerts en ce moment à Pékin, compte tenu de la situation sanitaire?
I'm planning a recital in December in Beijing, because in the moment it's still 30%.
Écoutez, je compte donner des concerts en décembre à Pékin, parce que pour l'instant, on ne peut remplir les salles qu'à 30%. Donc peut-être qu'en décembre, il y aura plus de gens qui auront le droit de se trouver au sein des salles de concert.
Un immense merci, Lang Lang. On va se quitter en musique, mais pas par une interprétation de vous, par votre choix musical. Vous avez choisi Chopin, une polonaise jouée par Arthur Rubinstein. Un mot avant de se quitter sur ce choix?
Pour moi,
Rubinstein a le son le plus chaleureux et la polonaise qu'il joue est tellement inspirante, elle ouvre nos cœurs et c'est vraiment une feuille de route pour toutes les décisions à prendre à cette époque vraiment troublée, cette époque du coronavirus. Et c'est pour ça que j'ai choisi sa polonaise. Thank you.
Le disque, en tous les cas les deux disques des variations Goldberg par Lang Lang a donc paru chez Deutsche Grammophon. Quant à Lang Lang at the Movies, c'est un disque Sony, un grand merci à Jacques Hubert pour la prise de son.